Laudetur Jesus Christus.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonsoir, nous revenons ce soir sur cet appel du pape François contre le racisme. Alors que les États-Unis sont secoués par une vague de protestations depuis la mort d'un afro-américain George Floyd sous les mains d'un policier blanc à Minneapolis, les manifestations ont égrené dans tout le pays qui fait encore face à la pandémie. Des milliers de personnes ont été arrêtées. Face à ce déferlement de colère, le Saint-Père a pris la parole pour condamner le racisme et le recours à la violence. On l'écoute.
Chers frères et sœurs des États-Unis, je suis avec une grande inquiétude les douloureux troubles sociaux qui se produisent dans votre pays ces jours-ci à la suite du décès tragique de Monsieur George Floyd. Chers amis, nous ne pouvons tolérer ou fermer les yeux sur aucune forme de racisme ou d'exclusion et prétendre défendre le caractère sacré de toute vie humaine. Dans le même temps, nous devons reconnaître que la violence des dernières nuits est autodestructrice. La violence n'apporte rien et fait perdre beaucoup. Aujourd'hui, je m'unis à l'église de Saint-Paul et de Minneapolis et à tous les États-Unis pour prier pour le repos de l'âme de George Floyd et de tous les autres qui ont perdu la vie à cause du péché du racisme. Prions pour le réconfort des familles et des amis endeuillés. Prions pour la réconciliation nationale et la paix à laquelle nous aspirons.
E degli amici affranti, e preghiamo per la riconciliazione nazionale e la pace a cui anneliamo.
Voilà les mots du pape François contre le racisme et le recours à la violence. Et un mot sur l'audience de ce matin. L'évêque de Rome a poursuivi son cycle de catéchèses sur la prière. La figure du patriarche Abraham était au centre de son allocution. Les précisions, bien sûr, sur notre site internet. La péninsule italienne ouvre aujourd'hui ses frontières aux touristes européens. Avec l'espoir de sauver la saison touristique, le tourisme représentait en Italie 13,2% du PIB en 2019. Et parmi les premières arrivées de touristes dans la péninsule italienne, peut-être les Allemands. Le gouvernement allemand va lever ses mises en garde sur les voyages touristiques en Europe d'ici le 15 juin. Et cet après-midi, c'est la Belgique qui a annoncé également ouvrir ses frontières aux autres pays de l'Union européenne à partir de la mi-juin. Au Royaume-Uni, un rapport montre que les Noirs, Asiatiques, Antillais et autres minorités sont disproportionnellement affectés par la Covid-19. Ce n'est pas forcément génétique, mais d'autres facteurs sont probablement en jeu, comme l'activité professionnelle, la pauvreté et un accès inégal aux soins. De Londres, les explications de Jean Jaffré.
Il y a deux mois, le président du conseil de l'Association britannique de médecine avait déjà demandé l'ouverture d'une enquête sur le fait que le taux de mortalité des médecins et des agents des hôpitaux était disproportionnellement élevé. L'étude statistique publiée hier par Public Health England prend en compte les disparités telles âge, sexe, lieu de résidence, ressources et ethnicité, ainsi que les problèmes de santé préexistants. Cependant, l'obésité et l'activité professionnelle qui sont considérées comme des risques aggravants face au Covid-19 n'ont pas été prises en compte. Ainsi, un Britannique dont la famille est originaire du Bangladesh a deux fois plus de risques de mourir s'il est contaminé par le coronavirus qu'un blanc. Il a été aussi constaté que les conducteurs d'autobus, les gardes de sécurité ou les ouvriers du bâtiment sont plus exposés. Les minorités représentent 7% de la population, mais par exemple, 14% des personnels hospitaliers sont classés comme membres de minorités. Parmi d'autres hypothèses expliquant cette inégalité face à l'épidémie, le mode de vie, par exemple le fait que plusieurs générations cohabitent dans des zones défavorisées, plus exposées à la pollution. Le maire de Londres, Sadiq Khan, d'origine pakistanaise, réclame une enquête publique, car a-t-il déclaré « Nous avons besoin de savoir pourquoi ces communautés sont disproportionnellement contaminées par le virus et, ce qui est plus important, comment y remédier ?» Londres, Jean Jaffré, Radio Vatican.
Il a passé 26 ans en cavale. Le Rwandais Félicien Kabuga sera finalement jugé par un tribunal international de l'ONU. La justice française a rendu sa décision ce mercredi. L'octogénaire est accusé de génocide et crimes contre l'humanité commis au Rwanda entre avril et juillet 1994. Alors que des nouvelles sanctions américaines sur la Syrie doivent entrer en vigueur ce mois-ci, Damas condamne une nouvelle fois le boycott de Washington. Le ministère des Affaires étrangères syrien accuse les États-Unis de terrorisme économique et, je cite, d'avoir une responsabilité dans les souffrances des Syriens concernant leur gagne-pain. Les remords de la Suède quant à sa gestion du coronavirus. L'agence de santé publique suédoise a reconnu que l'approche du royaume scandinave pour contenir la propagation de la maladie pouvait être améliorée. La Suède, qui avait choisi de ne pas confiner sa population, demandant à chacun d'observer les recommandations de distanciation sociale et de prendre ses responsabilités. Si la même situation venait à se reproduire, je pense que nous finirions par faire quelque chose entre ce que la Suède et le reste du monde ont fait, a déclaré cet après-midi Anders Tegnell à la tête de l'agence de santé.
Vous êtes parent ? Profitez du confinement pour apprendre à votre enfant à identifier les contenus mensongers et les rumeurs. Sur Internet, trouvez une information confirmée comme fausse et posez à votre enfant ces questions. Qui est à l'origine de cette information ? À qui est-elle destinée ? Provient-elle d'une source fiable ? Pendant l'épidémie de Covid-19, ne faites confiance qu'aux sources d'informations officielles et aux médias crédibles. Ne partagez pas d'informations non vérifiées. Ceci est un message de l'UNESCO.
C'est une des notions de prédilection du pape François, l'émerveillement. Provoqué par la création ou l'action humaine intimement liée à la vie spirituelle, le Saint-Père assimile l'émerveillement à la source de la prière. Alors comment discerner, cultiver cette joie, comment lutter contre les forces de la tristesse, particulièrement cette période d'épreuve mondiale que nous venons de traverser ou traversons encore? Nous parlons de toutes ces vertus de l'émerveillement avec l'essayiste et théologien Bertrand Vergely.
L'émerveillement, c'est le fait d'avoir affaire à des choses qui sont dignes d'admiration. Le mot vient du latin mirabilia, qui veut dire chose admirable. Le merveilleux nous met pas simplement devant les choses admirables que l'on trouve dans la nature et dans l'homme, mais elle nous met en face devant l'extraordinaire de l'existence. Et nous rentrons dans la dimension religieuse de l'existence quand nous découvrons ce qui est plus que matériel, plus qu'humain, et qui vient d'une source encore plus vivante que la source matérielle ou humaine. Qu'est-ce qui est merveilleux dans la vie spirituelle? C'est que celle-ci renouvelle totalement et le monde matériel et le monde humain pour faire apercevoir quelque chose qui est plus que matériel et plus qu'humain. Faut pas le prendre d'une manière naïve, c'est-à-dire on serait dans une espèce d'ébahissement, de bonheur continuel. Mais la disposition du cœur est fondamentalement ouverte à la surprise, à l'étonnement, à l'admiration, à l'attention. Et l'espérance, c'est ce qui se passe quand l'extraordinaire devient ordinaire. L'émerveillement est toujours suscité à partir de trois éléments. Le premier, bien évidemment, le miracle, la chose tout à fait extraordinaire qui fait que le monde est beau. Deuxièmement, les êtres humains. Et puis alors, après, commence la vie spirituelle où ça parle de l'intérieur de votre cœur, c'est-à-dire dans les profondeurs de votre être. Vous apercevez d'une vie encore plus puissante et encore plus belle qui transfigure tout.
Et alors, est-ce que cette disposition du cœur à l'émerveillement, est-ce qu'elle est innée? On l'acquiert?
Eh bien, les deux. C'est quelque chose qui est dans le fond de notre être, mais en même temps, ça se cultive. On peut, à un moment, perdre son rapport à l'émerveillement et on peut le retrouver. Ça s'apprend par la concentration, la vigilance et l'attention. Alors là, je suis dans la disposition la meilleure pour pouvoir aborder la question de l'émerveillement et le vivre.
Et qu'est-ce qui pourrait nous faire perdre ce rapport à l'émerveillement? Quels seraient les obstacles à éviter?
Le moment où on est assailli, une suite de malheurs, d'épreuves, tout d'un coup vous êtes assommé. Ou alors on s'endort dans la banalité, dans la médiocrité, dans la facilité. On perd la finesse parce que on n'est pas exigeant, on ne se renouvelle pas.
Mais comment réveiller l'émerveillement chez les gens? Une personne lambda, par exemple, endormie, c'est difficile, cette prise de conscience pour certains.
Premièrement, c'est tout le processus de l'éducation. Il y a des activités d'éveil qui se font dès le plus jeune âge pour amener l'enfant à avoir de la curiosité, de l'attention, de l'ouverture, et donc ça se travaille. Ensuite, c'est tout le travail de la culture. Et puis, ensuite, ça se fait de l'intérieur. Arrêtez toujours d'être dans ce désabusement. ce plaisir à un moment de dénigrer. Là, on est dans le combat spirituel, un combat de résistance contre les forces de tristesse. Ça paraît rien, mais cette capacité de discernement permet d'éviter l'emballement de l'intelligence maligne et de la manipulation du désespoir.
Le théologien Bertrand Vergely, il était interrogé par Delphine Allaire. Prochain rendez-vous de l'information, c'est demain matin à 8h30. Une très belle soirée. Au revoir.